L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être là pour cette rentrée 2015. On est ravis d'être avec vous, bien sûr. Tout à l'heure, notre French Tech Tour, c'est un nouveau rendez-vous et nous irons à Brest. Et oui, ça bouge à Brest, côté high-tech et surtout côté écosystème start-up. On en parlera. Nous irons aussi à Buenos Aires. Ça sera notre World Tour. Et les deux, ce sera avec Aurore Géraud, qui a la faculté d'être à la fois à Brest et à Buenos Aires. Elle est très forte quand même. On verra ça dans quelques instants. Éric Le Bourlou de la rédaction de Zeronet.com sera là aussi. Et puis le crash test d'Antoine. Et puis il y a un nouveau rendez-vous.
Mais oui,
l'alphabet du numérique tout
du
à l'heure.
Numérique, je vais vous faire réaliser une espèce de petit combat entre digital et numérique.
D'accord.
Qu'est-ce qu'on est en droit et en mesure de dire ?
On verra ça tout à l'heure. Mais auparavant, notre passion selon Sanette, et en ce samedi après-midi, on va parler de crowdsourcing, de crowdshipping, de crowdshopping aussi. Et avec nos invités.
Tout à fait. Alors, comme vous voyez, trois termes qui sonnent plutôt barbares, j'imagine, à tout néophyte. Oui. Mais figurez-vous qu'en fait, donc, le crowdsourcing au service des marques, crowdshopping, crowdshipping, tout ça, ça correspond à des tendances de l'économie collaborative. En gros, l'idée, c'est tout de même de redonner le pouvoir à la foule, aux utilisateurs.
La foule, c'est-à-dire nous.
Nous.
Voilà, c'est très
crowd.
Bien.
Voilà. Alors pour en parler, nous avons en studio Asma Benjema.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice de la start-up Jouebi.
Oui.
Et Augustin Rudigoz.
Bonjour.
Vous êtes président de Mobile. Alors tous deux, dites-nous à quoi vous sert la foule dans votre modèle. En gros, en quoi consiste, Augustin Rudigoz, on va commencer par vous, le crowdsourcing au service des marques.
Et alors, peut-être expliquer Mobile. Ce que c'est aussi le crowdsourcing rapidement.
Exactement. Alors Mobile, c'est effectivement le crowdsourcing au service des marques. Avant ça, le crowdsourcing, qu'est-ce que c'est ? Crowd, la foule, sourcing, donc c'est collecter. Donc nous, le cœur du métier de Mobile, c'est de collecter de l'information au service des marques, et plus précisément de l'information en magasin. Aujourd'hui, il y a différentes solutions pour collecter de l'information en magasin, mais finalement, qui de mieux placé pour remonter des informations sur la présence d'un produit, la présence d'une publicité en magasin, que nous, les consommateurs, qui nous rendons dans les magasins tous les jours pour faire nos courses.
D'accord. Concrètement, ça se présente comment Mobile, c'est une application. Vous avez une communauté d'utilisateurs qui va relever des défis.
Concrètement, Mobile, ça se présente sous la forme d'une application sur laquelle une communauté de 150 000 personnes est fédérée aujourd'hui en France, en Espagne et au Benelux. Et l'idée, c'est effectivement que des marques ou des distributeurs eux-mêmes vont nous solliciter pour connaître la présence de leurs produits, la présence des publicités, les nouveaux produits qu'ils lancent en magasin. Et plutôt que déplacer des personnes en magasin, c'est solliciter le consommateur directement. Mmh. Aujourd'hui, plus d'un consommateur sur deux en France a un smartphone dans sa poche. On a une bonne qualité d'image, on a des réseaux mobiles qui permettent de remonter de l'information rapidement. Et donc, en échange de quelques euros, on va acheter leurs droits photos, notamment sur la prise de ces informations. Et ben, on va leur proposer de se rendre dans le magasin au coin de la rue pour remonter, par exemple, la présence des nouveaux yaourts ou non. Et donc, on prend une photo du rayon yaourt, on dit si le yaourt à la fraise est bien présent. Et voilà.
Ah, d'accord. Ce yaourt à la fraise que je ne trouve jamais.
Exactement.
C'est ça.
Voilà. Et qui, la marque qui, justement, crée ce yaourt à la fraise aimerait bien que vous le trouviez puisqu'elle investit souvent beaucoup sur ce yaourt.
Est-ce que je pourrais aussi remonter le prix de ce pot de yaourt?
On remonte beaucoup de choses. On remonte la présence, on remonte le prix, on remonte la publicité. Et aujourd'hui, c'est très vaste. On va des industriels qu'on connaît, de toutes les marques qu'on peut connaître en magasin, en hyper, en supermarché. Mais on va jusque dans des magasins spécialisés, de la pharmacie par exemple, du bricolage. On est même allé jusqu'à vérifier dans des enseignes de jardinerie les rayons des cactus, si vous voulez. Donc c'est vraiment la puissance et le solliciter l'avis de consommateur et du moins le consommateur au bon endroit au bon moment, puisqu'avec 130 000 consommateurs, on est capable de remonter des milliers de photos dans des milliers de magasins en moins de 5 jours.
Vos clients, ça va être davantage les marques, les annonceurs, ou est-ce qu'on pourrait imaginer que ce soit directement les groupes de grande distribution ou centres commerciaux, histoire de pas fliquer le degré d'achat l'on dit en magasin, mais est-ce que ça pourrait être ça?
On travaille effectivement avec les marques majoritairement, mais on travaille aussi avec les distributeurs. Et il faut voir que la présence ou l'absence d'un produit ou d'une implantation, les industriels financent beaucoup de publicité en magasin, ça bénéficie à la fois à la marque, mais à la fois au magasin. Donc plus que dans le flicage, on est dans la bonne exécution en magasin pour être capable de savoir si à la fois la marque et le distributeur va pouvoir faire du bénéfice.
D'accord. Asma Benjema, on va essayer d'éclairer deux autres termes avec votre start-up, Jouebis. À la fois, alors, pour commencer, commençons par le crowdshipping. Ça consiste en quoi ?
Alors, le crowdshipping, c'est faire appel à la foule.
Déjà, c'est pas facile à dire, votre truc. Hein.
Jouebis ?
Non, crowdshipping.
Ah, crowdshipping.
Non, Jouebis, ça va.
C'est d'accord.
Jouebis. C'est bien.
Alors le crowdshipping, c'est faire appel à la foule pour envoyer des courriers ou des colis. Donc au lieu de faire appel aux acteurs historiques du marché, ben vous cherchez un voyageur sur Jouebis qui pourra transporter votre lettre ou votre courrier. C'est moins cher et c'est plus rapide.
Exemple. D'accord. Donnez-nous un exemple.
Alors mon associé et moi sommes tous deux franco-tunisiens. Et souvent, on a besoin d'envoyer des papiers urgents vers la Tunisie. Quand on va vers la poste, par exemple, ils peuvent le faire, mais ça prend beaucoup trop de temps.
C'est plus urgent.
Voilà, il faut pas que ce soit urgent. Et donc, on va souvent vers les autres gros acteurs du marché. Ils peuvent le faire en 2 jours, mais ça coûte 140 euros.
Donc, et par exemple, ça veut dire quoi, les TNT, les
FedEx, les DHL, etc.
D'accord.
Et donc, du coup, face à ces prix exorbitants, les communautés expatriées, les communautés maghrébines et africaines surtout, essayent de trouver des moyens moins chers pour envoyer leurs biens. Par exemple, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on n'arrête pas de voir des annonces cherche voyageurs faisant Paris-Tunis, Paris-Casa. De plus, les gens ont de plus en plus tendance à aller à l'aéroport, à aller vers la file où les gens attendent pour voyager, par exemple, vers la Tunisie, pour demander aux voyageurs s'ils veulent bien transporter.
Ah, c'est vrai?
Oui. Parce que tout le monde fait ça, ça se fait depuis des dizaines d'années d'une manière informelle et pour ces communautés-là, c'est tout à fait normal de le faire. Et du coup, on a eu l'idée de créer Jouebis, donc c'est une plateforme collaborative qui met en relation des voyageurs qui ont de l'espace dans leur valise avec des gens qui souhaitent soit envoyer des courriers urgents, des colis ou acheter un bien à l'étranger.
Oui, c'est du colissage, quoi, en quelque sorte.
Co-balisage.
C'est ça, mais c'est rigolo. Et alors concrètement, ça marche, quoi? Il y a une appli à télécharger?
Alors pour l'instant, c'est un site internet. On est en train de préparer l'application mobile. Et donc, c'est www.jouebis.com.
Jouebis, ça s'écrit comment?
J-W-E-B-I.
Voilà, J-W-E-B-I.
Et ça veut dire mon courrier, mon enveloppe en dialecte tunisien.
D'accord.
Et du coup, comme au départ, on ciblait les communautés expatriées, on a choisi un nom qui leur parlait.
D'accord.
Voilà.
C'est malin.
Mais alors, tous deux, est-ce qu'il n'y a pas une question de confiance derrière, de sécurité? Comment vous passez au-delà de ces deux obstacles, deux soupçons?
Oui, surtout si par exemple, je vous remets des plis importants, on peut imaginer que ce soit même de l'argent.
Mais bien
ou
sûr.
C'est de la valeur. En fait.
Alors justement, on a mis en place plusieurs mesures par rapport à la confiance et à la sécurité, car juste avant de lancer notre projet, on avait fait une étude de marché sur 600 personnes. Et ce que ces gens disaient, c'est que tout le monde était prêt à utiliser Jouebis à condition que la sécurité soit là. Et donc du coup, une des mesures, c'est la vérification de tous les profils de tous nos utilisateurs, vérification des numéros de téléphone par l'envoi d'un SMS par exemple, ou vérification des profils sur les réseaux sociaux. Le plus important, c'est que les gens ne peuvent pas transporter ce qu'ils veulent. Première règle, c'est les gens ne transportent que les objets qui ne sont pas emballés. Donc si quelqu'un vous ramène un colis fermé, évidemment, vous lui dites non. Après, c'est limité pour l'instant aux enveloppes, donc pour les documents urgents, aux vêtements, aux clés, aux livres par exemple, car ce sont les catégories qui ont été les plus demandées et c'est des catégories sur lesquelles le risque est moins important.
Donc voilà. Ça peut être des plis, des documents, on va dire,
administratifs,
des choses comme
et
ça.
Et vous avez tout à fait le droit d'ouvrir et de vérifier vous-même qu'il n'y a rien de suspect dans le pli.
Augustin Rudigo sur Mobile.
Oui, c'est un sujet effectivement chez Mobile. C'est important pour les marques qui nous sollicitent, puisqu'on est une entreprise B2B à la base, donc on a des marques qui nous sollicitent pour connaître ces informations en magasin. Forcément, c'est important pour elles de savoir d'une part si le consommateur s'est rendu dans le bon magasin. Et ça, c'est facilement, avec les nouvelles technologies et notamment les applis smartphones, on a les données de géolocalisation qu'on peut facilement comparer avec la géolocalisation du magasin. Donc l'utilisateur accepte la géolocalisation au moment où il utilise l'application. Et la deuxième chose, déjà d'un point de vue optimiste, de manière générale, on constate quand même que le consommateur est de bonne foi. Et ça, c'est plutôt rassurant quand même dans notre société. Mais d'autre part, sur chaque information demandée, les on invite nos consommateurs à travers l'application mobile à prendre des photos. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple des yaourts à la fraise, si je constate la présence ou l'absence d'un yaourt à la fraise, je vais prendre en photo le rayon concerné. Donc nous, derrière, on va pouvoir consulter la photo afin de voir que la réponse remontée a été correctement, enfin correspond bien à ce qui se passe dans le magasin.
Et alors, s'il manque ce fameux yaourt à la fraise...
Ah, il vous intéresse aussi, Lila, je vois bien.
Est-ce que l'information va être remontée suffisamment rapidement? Comment ça se passe? Est-ce que vous mettez en place des rapports journaliers, des rapports
sur... Oui, c'est une modération, on va dire.
Oui, alors en fait, c'est ça, il y a une modération à travers les photos qu'on remonte. Donc nous, en interne, on va valider, entre guillemets, les résultats qui sont remontés par notre communauté. Et puis après, nos clients ont accès au cloud mobile, donc c'est vraiment un espace sécurisé en ligne et en temps réel on peut consulter les informations qui sont remontées en magasin. Et puis dès lors que la confiance s'instaure entre clients, communauté et interne chez mobile, on se rend compte rapidement que c'est un sujet qui vient par exemple pour nos premiers clients, enfin pour les clients qui commandent chez nous pour la première fois, et qu'une fois que le service est bien rodé, c'est plus un sujet.
Super, ben merci beaucoup. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup à tous deux pour l'éclairage. Asma Benjema, je rappelle, vous êtes fondatrice de Jouébi, et Augustin Rudigoz, vous êtes président de Mobile. À bientôt.
Merci, et vous restez avec nous. L'atelier numérique se poursuit dans un instant, le French Tech Tour direction Brest, et puis après, eh bien ce sera à Buenos Aires, tout simplement. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Le crash test d'Antoine. Allez, on va dire dans une petite demi-heure. On va retrouver aussi la rédaction de zeronet.com avec Éric Le Bourlou dans quelques minutes. Mais dans l'immédiat, Aurore Géraud est à mes côtés. Dans un instant, Aurore, nous irons à Buenos Aires. Voilà, on va se faire plaisir.
Tout à fait.
C'est bien. Il fait peut-être plus chaud qu'à Brest, je ne sais pas, hein, je pense.
Certainement.
Mais cela dit, Brest a quelques atouts intéressants. Déjà, c'est une ville magnifique. Les Brestois sont adorables. Et puis, en plus de ça, il y a un écosystème start-up très intéressant, Aurore.
Mais tout à fait. En fait, pour la première fois, on fait un French Tech Tour.
Et ça, c'est bien.
Et ça, c'est bien.
Il y a des petites nouveautés, vous avez vu, dans cette nouvelle saison de l'atelier numérique. Il y en aura d'autres.
Et donc du coup, on part du côté de l'Ouest et on est aujourd'hui avec Eric Vandenbroek, qui est directeur du Technopôle Brest-Iroise. Eric, bonjour.
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 Alors, pour remettre juste un petit peu en contexte, Brest Tech Plus, c'est 16 000 emplois dans le secteur du numérique qui sont répartis dans 1620 établissements. C'est une augmentation entre 2009 et 2013 de 127% du nombre d'EURL et de 53% de TPE. Et c'est surtout une labellisation le 25 juin dernier sous le signe de la mer. Est-ce qu'on peut dire, Eric, que l'entrepreneuriat dans le secteur maritime est un petit peu l'élément différenciant de la candidature de Brest Tech Plus?
Alors oui, en effet, ça a été un élément qui a singularisé la candidature de Brest Tech Plus, donc de Brest, Lannion, Quimper, Morlaix, à la labellisation French Tech, puisqu'effectivement c'est un domaine d'excellence qui est reconnu au plan international, que ces sciences et technologies marines qui sont menées depuis les établissements d'enseignement supérieur de recherche et des industriels brestois, singularité effectivement qui est de portée internationale et qui est très largement utilisatrice de solutions numériques, et c'est un des atouts qui a permis effectivement à cette candidature, même si elle est très numérique dans ses gènes, de se distinguer et d'être labellisée.
Du coup, c'est 3500 emplois dans ce secteur. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des structures d'accueil? Est-ce que c'est plutôt universitaire quand on parle de maritime?
Alors c'est très universitaire, c'est vrai. Enfin, quand on dit universitaire, on pense aussi à centres de recherche et en particulier à l'IFREMER, hein, qui est le plus gros centre IFREMER en France et qui d'ailleurs bénéficiera de l'arrivée du siège dans les prochains mois. C'est de nombreux établissements publics de recherche, d'enseignement supérieur, des écoles d'ingénieurs, mais c'est aussi un grand nombre d'entreprises avec quelques grands noms comme bien entendu Thales ou des CNS. business et un grand nombre d'entreprises plus petites, de PME, de start-up également, qui ont su tirer avantage des transferts de technologies nombreux entre les établissements d'enseignement supérieur vers les les PME, mais également des grands groupes vers ces PME ou vers l'essaimage de création de nouvelles entreprises.
Donc du coup, vous nous parliez de nouvelles entreprises, de start-up. Est-ce que vous auriez des exemples de recherche d'initiatives, d'initiatives marquantes?
Oui, on peut citer donc quelque chose qui est relativement d'actualité, hein, puisque au croisement, de la mer et du numérique, on peut citer un exemple d'entreprise qui, dans le champ des énergies marines renouvelables, notamment, s'est créé propose un service de mesure en fait du bruit sous la mer, du bruit naturel, mais aussi du bruit artificiel lié à l'activité humaine, et qui répond en fait à une exigence réglementaire européenne qui impose aux entreprises susceptibles de mener des travaux en mer, dont notamment les entreprises qui projettent d'installer des éoliennes en mer, de faire un état des lieux initial de ce bruit ambiant et de son impact sur l'écosystème, et surtout donc de veiller à ce que les travaux qui seront menés lors de ces installations respectent la norme en termes d'émissions de bruit sous-marin. Ce service mis en place par la société Quiet Ocean, qui est une start-up qui a à peine 3 ans et qui est en forte croissance, a été rendu possible par un parcours finalement d'un ingénieur qui d'abord passait par la recherche puis ensuite par l'industrie a pris son envol et a créé son entreprise pour offrir ce service au plan national d'abord, mais aussi déjà au plan européen et avec quelques touches déjà aux États-Unis.
Et du coup, en restant dans tout ce qui est mer, d'après ce que j'ai compris, Brest a choisi de faire son bâtiment totem dans les ateliers des Capucins. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ?
Oui, les ateliers des Capucins, c'est un des bâtiments historiques de Brest. Alors, la plupart des gens savent que Brest a été rasé pendant la Seconde Guerre mondiale du fait des bombardements alliés. Mais il y a quelques bâtiments qui ont survécu, dont notamment ces fameux ateliers des Capucins, qui sont des bâtiments de la construction navale militaire, qui ont été construits au fin du 19e, et qui ont été, désaffectés par la Marine nationale il y a quelques années, et qui a été rétrocédé à la ville de Brest. Et c'est dans cet espace assez majestueux, qui est idéalement placé au centre de la ville sur une hauteur au-dessus de la rivière Pinfeld, qui est la base navale, que Brest a décidé de développer sur 40 000 m² un espace dédié à la culture, au numérique, aux activités culturelles et créatives, et de faire de ce bâtiment le bâtiment totem de Brest Tech Plus, en y accueillant les différents acteurs de cet écosystème que sont notamment la cantine numérique, les représentants du Technopole, mais aussi d'autres acteurs privés qui se sont associés dans ce dispositif autour de l'accompagnement de start-up.
Merci beaucoup Eric.
Et avec plaisir.
Donc Brest, voilà.
Merci Eric Vandenbroek, donc directeur du Technopole Brest-Tiroise.
Ça bouge à Brest et c'est tant mieux. C'était notre premier French Tech Tour, il y en aura d'autres, hein? On rencontre sur vous.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et après ce French Tech Tour, là, notre World Tour, rendez-vous, vous connaissez. Et direction Buenos Aires, on va s'intéresser à cette ville parce que ça risque de devenir, Aurore, une ville intelligente, une smart city, comme on dit.
Oui, tout à fait. Et ben, du coup, on est aujourd'hui avec Lorena Ederer, qui est Regional Manager pour CityStar World. Bonjour Lorena.
Bonjour.
On sait que Buenos Aires est donc un précurseur en matière d'entrepreneuriat, en l'Argentine même plus particulièrement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui, alors en fait c'est la troisième fois que CityStar World va à Buenos Aires, parce qu'en effet il est très particulier comme écosystème, c'est-à-dire qu'il était précurseur dans la région d'Amérique latine en termes d'entrepreneuriat. Ça fait 15 ans que l'entrepreneuriat fait sa présence en Amérique latine. Et c'est vrai qu'actuellement, c'est un des écosystèmes les plus solides dans la région.
Et du coup, il est aussi, on a remarqué, il était précurseur en matière de Smart City, notamment avec le maire Mauricio Macri, qui en, dès 2007, en fait, a lancé un plan d'urbanisation. Est-ce que vous, vous le constatez à CityStar World?
Alors, c'était pas exactement la première chose qui nous a sauté aux yeux quand on était arrivé à Buenos Aires, mais il est vrai que le gouvernement de Buenos Aires a une politique très, très innovante. Ils ont reçu un prix en termes de politique publique, en fait, d'innovation et soutien à l'entrepreneuriat l'année passée dans le monde. Ils ont une des meilleures politiques publiques. Et en effet, c'est vrai qu'ils développent beaucoup de plateformes digitales pour toute l'utilisation, en fait, dans la ville. Ils ont des applications dans tous les sens. Et c'est vrai que on sent bien que derrière, il y a des services digitaux qui sont en train d'être développés pour faire de Buenos Aires une smart city.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de services dont bénéficient les habitants?
Alors, par exemple, ils ont une application qui est justement développée par le gouvernement de Buenos Aires, qui est une application qui cherche, qui permet d'avoir toutes les possibilités de transport d'un point à l'autre. Les bus, le métro, à pied. Et ce qui est très particulier en Amérique latine, parce que, en général, c'est pas tout à fait la chose la plus logique qui puisse être. Pourtant, en Buenos Aires, ils ont réussi à faire quelque chose de très fluide.
Et du coup, vous m'avez dit, enfin, on en a discuté un petit peu avant, qu'ils étaient pas mal en, au niveau e-éducation. Vous l'aviez remarqué, notamment dans votre jury, il y a pas mal de startups qui lançaient leurs produits.
Exactement. Alors, pendant notre événement, en fait, pour la compétition à Buenos Aires, on a reçu environ 70 startups qui ont postulé. Il y a eu deux ou trois plateformes en termes d'éducation. On a eu une qui s'appelle Blended, qui avait présenté lors de l'événement à Buenos Aires. Eux, c'est une plateforme de communication entre profs et parents, en fait. Donc, ça peut comprendre tout le système de notation. Ça peut aussi comprendre aussi tout le système de communication entre parents et professeurs, c'est-à-dire par SMS, par téléphone. Ça retient tout l'historique. Et là, ils étaient actuellement en train de développer aussi un système de paiement. Du coup, les parents pouvaient payer directement pour les affaires d'école de son enfant directement sur la plateforme.
Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du gagnant Flimper?
Oui, alors Flimper, c'est quelque chose de très particulier. Eux, ils transforment Twitter en outil de vente, en fait. Via les hashtags, ils transforment des prospects. C'est-à-dire qu'ils utilisent un hashtag pour faire une campagne de vente sur Twitter. Par exemple, ils ont été utilisés par Samsung pour leur lancement du Galaxy S6 au Chili. Et en un jour, en fait, via leur hashtag qui était pré-vente Samsung, ils ont réussi à transformer environ 5000 ventes.
Et ça marche bien? Est-ce que l'écosystème, enfin les citoyens et les consommateurs sont très engagés sur les réseaux sociaux à Buenos Aires?
Alors oui, justement l'Argentine cette année était le pays en Amérique latine qui a eu la plus grosse croissance en termes d'utilisation de Twitter. Et c'est vrai que la région en général, l'Amérique latine, il y a un croisement très 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 grande par rapport à l'utilisation de Twitter, parce qu'ils ont commencé assez en retard par rapport au reste, en Asie, au Moyen-Orient. Donc c'est vrai que Flimper a un grand potentiel, en fait.
Oui, d'après ce que j'ai vu, 88% des individus ont Internet sur mobile, hein, là-bas.
Ah oui, d'accord. Donc les réseaux mobiles sont performants?
Ah oui, alors ça oui. Je crois que c'est en Argentine, si je m'en souviens bien des chiffres. C'est justement le pays où il y a une plus grande pénétration mobile pour tout utilisateur des réseaux sociaux, en fait.
D'accord. Très bien, bien voilà. Petit...
Ben merci Lorena Ederer.
Petit détour du côté de Buenos Aires, voilà. Merci
à
beaucoup.
Bientôt.
Aurore, on va se retrouver dans quelques minutes avec Antoine, bien sûr, pour le crash test et pour terminer ce premier numéro de l'atelier numérique pour cette nouvelle saison. Et puis dans un instant, direction la rédaction de Zeronet.com, vous le savez, comme chaque samedi. Et c'est Éric Le Bourlou, le rédacteur en chef du Pôle Actu, qui nous rejoindra. On jettera un œil sur les gros titres d'actualité de ces derniers jours. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Allez, avant de retrouver le crash test d'Antoine, on va parler avec Antoine dans un instant de flexitarien. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un flexitarien? Non? Ah ah, le suspense est rude, vous le saurez dans un petit quart d'heure. Mais auparavant, direction la rédaction de Zéronet.com avec Éric Le Bourlou, qui est le rédacteur en chef du Pôle Actu, qui est avec nous. Bonjour Éric.
Bonjour.
Et bonne rentrée mon cher Éric.
Merci à vous aussi François.
Et voilà, Éric Le Bourlou, vous le savez, chaque samedi dans l'atelier, avec évidemment un point sur une actualité forcément chargée
pour oui.
cette rentrée 2015. Et on va commencer par l'événement qui fait frémir tous les geeks.
Eh oui.
C'est Apple qui va dans quelques jours maintenant, ça y est, c'est certain, annoncer de belles nouveautés, visiblement, et on l'espère.
Exactement. Alors Apple, ça y est, a annoncé que ce serait pour le 9 septembre, sa prochaine keynote, son prochain keynote, c'est comme on veut. Et il sera présenté à cette keynote, le prochain iPhone, hein, le nouvel iPhone, le successeur de l'iPhone 6, qui devrait logiquement s'appeler iPhone 6S. Donc on ne sait pas grand-chose hein, sur cette... évidemment, Apple conserve le secret sur son événement, mais par contre ils ont envoyé une invitation sous forme de d'énigme en fait, c'est ça qui est assez rigolo, où ils ont demandé en fait aux gens de demander des indices à Siri, donc on peut appuyer sur son smartphone sur Siri pour demander des indices sur cette conférence et Siri vous répond vous n'en saurez pas plus avant le 9 septembre, soyez là le 9 septembre. Donc ils organisent le buzz de manière assez géniale en fait grâce à un système qui est intégré sur l'iPhone.
Bon Eric, vous savez quoi, on va poser la question à Siri hein.
Allons-y.
Allez, on y va. Siri, donne-moi un indice.
Eh bien, j'ai entendu dire qu'il y a quelque chose à ne pas manquer le 9 septembre.
Voilà, c'est ça.
Voilà, exactement.
Alors,
il y en a plusieurs.
Si vous vous amusez avec Siri, il a plusieurs petites réponses.
Exactement.
Comme ça. Donc, il ne dit rien. Hein.
Il dit rien, sauf un petit quelque chose sur les couleurs. Il dit qu'éventuellement, il y a peut-être un truc sur les couleurs. Bon, voilà. C'est la seule petite information qu'il donne. Mais bon, en tout cas, ça aura lieu le 9 septembre. Alors, il y aura des nouveaux iPhones, mais peut-être autre chose. On sait que une nouvelle Apple TV, le petit boîtier télé d'Apple, est attendu aussi pour ce 9 septembre. Et surtout, ce qui est surprenant, c'est la salle qu'a réservée Apple pour cet événement, puisque c'est pas la salle qui réserve d'habitude à San Francisco. C'est une salle beaucoup plus grande. C'est une grosse salle de concert, en fait, qui fait jusqu'à 7000 places. Et c'est pas la salle qu'ils utilisent d'habitude. C'est le Bill Graham Civic Auditorium. C'est une grosse salle. Et donc, on se demande un peu pourquoi ils ont loué cette salle plutôt qu'un quelque chose d'un peu plus restreint. Donc, on va bien voir ce qui va se passer.
Peut-être qu'il y aura un concert, puisqu'on sait qu'Apple, maintenant, mise énormément sur la musique.
Exactement. Alors, peut-être qu'il y aura un concert, peut-être qu'il y aura, je sais pas, un événement avec des stars, on ne sait pas. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est une salle différente pour Apple. Alors là, évidemment, c'est le blackout total devant cette salle pendant deux jours. On ne peut même pas circuler autour. Et donc, on va bien voir. En tout cas, on sera, nous, sur place. On aura quelqu'un là-bas, Pierre Fontaine, qui sera là-bas à San Francisco pour suivre l'événement.
Alors, on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Mais bien évidemment, vous pouvez noter d'ores et déjà sur vos tablettes le 9 septembre à partir de 19h sur Zéronet.com et Zéronet TV, puisqu'on pourra suivre aussi cet événement en vidéo. En live, j'aurai le plaisir d'être avec vous pour découvrir ces nouveaux iPhones et peut-être aussi un Apple TV.
Exactement.
Et peut-être aussi autre chose aussi.
On va voir.
Surprise, on verra bien. Après Apple, on va parler de Microsoft. C'est aussi une belle rentrée pour Microsoft.
Ouais.
Avec Windows 10 qui est sorti le 29 juillet dernier, qui vit bien sa vie. Hein,
ouais,
pour
alors effectivement, ça fait à peu près un mois que Windows 10 est sorti. Puis Microsoft en a profité pour communiquer quelques chiffres sur Windows 10. Donc on sait maintenant que Windows 10 a été pour le moment téléchargé, installé, on va dire, 75 millions de fois sur des ordinateurs PC. Hein, donc c'est un chiffre assez conséquent quand même, hein, 75 millions. C'est beaucoup plus, par exemple, que quand vous avez une nouvelle version, justement, d'un iPhone qui sort. C'est quelque chose d'assez massif. Mais bon, il faut dire que Windows 10 est gratuit. Donc on peut très facilement mettre à jour son ordinateur vers Windows 10.
Enfin, gratuit si on a Windows 7 ou Windows 8.
Oui, tout à fait, pardon. Oui, voilà. Effectivement, si vous avez déjà une version récente,
par exemple,
antérieure
un Windows Vista ou un Windows XP, là, il faut payer.
Exactement. Mais alors, bon, Microsoft a beaucoup communiqué sur ces chiffres, hein, on voit que par exemple il y a 192 pays qui sont concernés, donc c'est sur la planète entière quasiment que Windows 10 est désormais présent et 90 000 modèles, et c'est là qu'on voit un peu l'étendue de l'écosystème Microsoft, 90 000 modèles de PC et de tablettes différents.
Incroyable.
Donc voilà, Windows 10 aujourd'hui sur des ordinateurs et des tablettes très très différentes.
Et je crois même qu'il y a une info assez amusante, Windows 10 a été installé sur un PC qui date de 2007.
Ouais, qui date de 2007, effectivement. effectivement. Donc voilà, on peut installer Windows 10 même sur
on a un vieux truc.
Même si on a un assez vieux truc, ouais, qui marchait sous Vista, ça marchera sous Windows 7.
Bon, si vous avez un Minitel, ça marchera pas. Hein.
Non, ça va être plus dur.
Ça va être un peu compliqué.
Ça va être plus dur. Mais en tout cas, ce qu'on voit aussi, et ça, Microsoft est beau et très content de le préciser, c'est qu'il y a beaucoup plus d'installations de logiciels depuis son Microsoft Store qu'avec Windows 8.1. Donc en fait, les gens ont l'air de beaucoup plus adhérer au nouveau store et au nouveau logiciel Microsoft. Hein. C'est très important pour Microsoft que ce store, hein, l'équivalent de l'App Store ou du Google Play Store, fonctionne. Parce que si ça ne fonctionnera pas, des développeurs ne viendront pas pour ajouter leur application. Donc ils sont contents. Il y a 6 fois plus d'installations que sur Windows 8. Donc pour l'instant, tout va bien. Voilà. Alors le bilan de Windows 10 est plutôt positif pour le moment, sauf pour quelques questions de vie privée où la Microsoft est un petit peu plus embêtée par certains internautes qui critiquent un petit peu le fait que Windows 10 se montre un peu indiscret, notamment quand on cherche via la petite barre qui se trouve dans la barre des tâches, sur Bing notamment.
Il y a aussi cette fameuse polémique du démineur, hein, visiblement.
Oui.
Avec le démineur qui est quand même l'un des... Voilà, qui a tué le temps de millions d'utilisateurs de Windows.
Exactement, pendant de nombreuses années. Mais effectivement, il y a donc plusieurs jeux bundlés, hein, sur Windows, notamment il y a le démineur, mais il y a aussi le solitaire. Il y a ils ont aussi essayé de retrouver un petit peu les bons vieux réflexes des vieilles versions de Windows, on va dire. Mais en fait, il y a aussi Candy Crush, et en fait, il y a quelques problèmes de. On peut se demander pourquoi. En fait, Microsoft cherche à insérer comme ça des logiciels dans son menu démarrer. Ajouter des logiciels.
C'est un peu du achat in-app finalement. C'est peut-être aussi une manière de Microsoft d'augmenter ses revenus avec des petits logiciels.
Exactement.
J'imagine qu'ils prennent une dîme à chaque fois, non?
C'est un peu s'inspirer du modèle freemium qui existe maintenant très bien dans le mobile. C'est-à-dire que vous donnez le logiciel gratuitement, mais ensuite vous avez des achats à l'intérieur de l'application.
Bon, on va être sulfureux maintenant, mon cher. Après Apple, après Microsoft, on va parler d'Ashley Madison.
Oui.
Vous connaissez peut-être ce site. Alors, peut-être en avez-vous entendu parler.
J'espère pas que vous le connaissez. Enfin, en tout cas, j'espère pas que vous êtes
vous étiez dessus. Voilà, c'est un site qui permettait des rencontres
extra-conjugales,
adultérines, je crois qu'on dit ça comme ça. Le problème, c'est que ce site a été hacké. Et donc, évidemment, les coordonnées de millions d'utilisateurs se sont retrouvées dans la nature.
Exactement, une base de données gigantesque qui s'est retrouvée sur Internet en quelques heures. Hein, 40 gigas de données concernant non seulement les utilisateurs d'Ashley Madison, leur paiement en carte bancaire, même s'il n'y a pas le numéro complet, leurs coordonnées, leur échange, leurs préférences intimes, sexuelles.
Un truc de dingue.
Donc voilà. c'est effectivement un énorme hack. Je ne sais pas si cette entreprise qui s'appelle Avid Life Media, qui est canadienne, pourra s'en sortir. Parce que non seulement, maintenant, leur site est complètement discrédité.
Bien
ils
sûr.
Ont des plus class action sur le dos.
Plus personne ne s'inscrira sur ce site.
Exactement. Et en plus, on a montré, l'exploitation de ces bases de données a montré qu'en plus, il s'agissait plus ou moins d'une arnaque, puisqu'il y avait sur ces 37 millions de membres, il y avait une infime proportion de femmes, des faux profils.
Oh là là.
Et donc, évidemment, tous les gens qui sont inscrits là-dessus pensaient peut-être discuter avec des femmes qui étaient en fait soit des profils
robots.
Créés par les administrateurs du site.
Ou des barbus derrière un ordinateur.
Exactement. Donc voilà, ça pose problème. Mais c'est quand même très grave, puisqu'il y a des gens qui se sont retrouvés avec leur intimité comme ça dévoilée sur Internet. Il y a même
des drames familiaux
qui ont dû, parce que vous avez aujourd'hui des sites web qui avec simplement un mail vous proposent de savoir si oui ou non la personne était sur le site. Il y a beaucoup de Français qui étaient sur le site aussi. On a retrouvé des adresses même on va dire du gouvernement. Des adresses gouvernementales.
D'accord.
De Paris.fr. Enfin voilà, on a retrouvé parce qu'on peut chercher de tout. De
pas
tous
dans
les
dirigeants du FMI, non, il y avait pas.
Pour l'instant,
on l'a pas retrouvé.
On l'a pas retrouvé, mais
bon d'accord.
Voilà, il faut encore continuer. Il y a de quoi fouiller. Voilà. Alors, ce qui est marrant, par contre, c'est que on se demande maintenant qui a hacké ce site, puisque les hackers de Ashley Madison, qui s'appellent The Impact Team, estiment qu'ils ont hacké simplement par vision morale. Ils estiment que c'est un scandale d'être de ce genre de site et d'être.
C'est un peu les Robins des Bois des mœurs, quoi.
Voilà, exactement. Sauf que
les bonnes mœurs.
Exactement. Sauf qu'on peut se demander si c'est vraiment ça en fait, ce qui est derrière.
Si c'est pas une excuse bidon.
Voilà. Est-ce qu'ils auraient pas voulu bloquer de l'argent, puis finalement ça serait pas fait, puis du coup ils auraient changé d'avis. Est-ce que finalement ce serait pas un ancien employé d'Ashley Madison? On ne sait pas. Mais il y a un blogueur qui s'appelle Brian Krebs, qui est très connu dans le monde de la sécurité informatique, qui pense être sur la piste du hacker de Ashley Madison. Il a retrouvé sur Twitter, alors la personne en question qui s'appelle Tadeusz Zhu, alors il a un pseudo, hein, c'est pas vraiment, évidemment pas son vrai nom, se défend, il dit que c'est pas lui, mais il y a quand même des choses bizarres, c'est-à-dire que c'est un fan des CDC, et puis quand les employés d'Ashley Madison sont arrivés sur leur bureau, ils avaient tous du Thunderstruck des CDC à fond sur leur PC.
C'est vrai.
Oui, tout à fait. Donc
le mec a réussi à pirater tous les ordis pour qu'il y ait de la musique qui sorte des haut-parleurs.
Voilà, exactement, comme ce qu'il y avait eu d'ailleurs pour Sony, quand Sony avait été piraté, Sony Pictures, il y a quelques mois. Il a piraté, il a passé un morceau d'ACDC dans les locaux d'Ashley Madison. Il a eu accès à des informations qui paraîtraient étranges pour quelqu'un qui n'était pas au courant de ce hack. Donc voilà, lui s'en défend, mais en tout cas, il y a une piste vers déjà un potentiel hacker. On verra si ça se confirme dans les semaines qui viennent.
D'accord. Donc faites attention, hein, lorsque vous vous inscrivez sur ce genre de site. On voit que finalement
rien n'est sûr sur Internet.
Rien n'est sûr sur Internet, et après ça peut avoir des conséquences
parfois incroyables, néfastes. Il y a même apparemment des cas de suicide, ce qui est horrible, hein, quand même.
Et oui, parce que des gens se sont, contenu de la vie privée de ces gens-là, exactement, s'est retrouvé sur le web.
Exactement. Ouais. Et quoi qu'on en dise, c'est vrai qu'on peut estimer que notre vie privée n'a pas été exposée de cette manière.
Très bien. Merci beaucoup, Éric Le Bourlou. Éric Le Bourlou, rédacteur en chef du pôle L'Actu de 01net.com chaque samedi, donc dans l'atelier numérique. Vous restez avec nous. Il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble. On va retrouver, entre autres, le crash test d'Antoine Cyr. Vous saurez tout sur les flexitariens. Vous verrez, c'est assez drôle. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business qui se termine. Le crash test dans quelques minutes. On a encore quelques instants passés ensemble. Surtout, restez là. Et puis on sera là bien sûr samedi prochain, 16h-18h. Et vous pourrez nous retrouver aussi en podcast. Tranquillement télécharger ces 2 heures de rendez-vous high-tech à la fois sur iTunes, mais aussi sur le site de BFM Business et sur le site de l'atelier www.atelier.net. Le crash des Antoine dans un instant, mais auparavant un nouveau rendez-vous avec notre superbe Lila Megraoua qui est là et qui régulièrement conclura cet atelier numérique avec Antoine. On va, alors pour tous ceux qui suivent régulièrement l'atelier, vous vous rappelez du dico facétieux du net de Jean de Chambure, hein,
oui.
Jean qui est parti en Asie, qu'on trouvera régulièrement. Et là, on va parler en fait de l'alphabet du numérique et confronter deux termes.
Exactement.
Dont on fait souvent l'amalgame, en
Mais
fait.
Voilà.
Le
Mais
numérique
voilà.
et le digital.
Tout à fait. Alors l'idée, ce serait, comme vous disiez, de rebaptiser ce fameux dico facétieux du numérique par l'alphabet du numérique, tout simplement parce qu'en plus, en fait, depuis des années, on s'attache à vous éclairer, à décrypter un peu tous ces petits mots barbares. On a pu le voir d'ailleurs il y a très peu de temps. Crowdshopping. Donc petits mots barbares qui sont tout simplement bêtes et méchants. Donc aujourd'hui, je propose un combat entre digital et numérique.
Alors,
une bataille
digital
rude.
Et de l'autre côté numérique.
Tout à fait. Alors commençons par la base, l'étymologie. Ouais. Donc numérique, pour rappel, vient du latin numerus, ce qui signifie nombre en français. Le numérique est défini comme un terme qui a un rapport avec les nombres. Le terme digital, lui, en revanche, provient du latin digitus,
oui,
le doigt.
Le doigt.
Donc, tout ce qui a rapport
digitale,
avec le doigt.
Effectivement, oui.
Tout à fait. En anglais, en revanche, digital signifie numérique.
Ah.
Donc, on peut parler plus ou moins le combat 0-0.
Mmh.
Si j'interroge mon ami Google, je vais tomber sur une page Wikipédia qui mentionne d'abord le terme numérique. Mon ami Wikipédia ne prend pour autant pas vraiment parti, puisqu'il mentionne... Il rappelle bien que les terminologies officielles françaises et québécoises préfèrent numérique, l'usage de digital en français se perpétue comme synonyme. Le contexte guide en cas d'ambiguïté.
D'accord.
Toujours pas de quoi attribuer un point. Si on continue à regarder historiquement, on constate qu'en fait le terme digital, si on consulte le trésor de la langue française informatisé, l'excellent d'ailleurs TLF. Donc ce fameux terme digital appliqué à un ordinateur est attesté en anglais depuis 1945. En 1964, l'histoire générale des sciences présente l'histoire des machines dites numériques ou digitales. Digital sera un synonyme.
Donc,
00.
Ça voudrait dire qu'à ce moment-là, hein, de l'histoire, digital, numérique, même combat.
Pour l'instant. L'Académie française,
oula,
en 2013...
Là, on monte d'un cran, les amis.
En 2013, rappelle qu'on se gardera bien de confondre ces deux adjectifs, numérique et digital, qui appartiennent à des langues différentes et dont les sens ne se recouvrent pas. On se souviendra que le français a à sa disposition l'adjectif numérique. Alors, un zéro?
Ouais.
Moi, je dis que non. Je dis qu'en fait, il s'agit en fait d'un faux combat. Et j'en prends pour exemple les termes numérisation et digitalisation. L'exemple est donné par le linguiste Antoine Maillet, qui dit qu'en fait la différence est dans l'usage, à savoir que la numérisation renvoie au changement de support de données, à sa dématérialisation.
Et par exemple, de l'analogique au numérique.
Hein, exactement. Voilà, ça, c'est compris. Et la digitalisation à la communication via des supports immatériels.
D'accord.
Ou à l'accès au digital.
Ou alors quand une entreprise se met à la digitalisation aussi, ça se dit.
Digitalisation d'une marque se dit.
Exactement.
Voilà.
Donc là, on peut dire qu'il y a une vraie différence entre les deux.
Donc je déclare ce combat nul et non avenu.
Très bien. Merci Lila et place donc comme promis au premier crash test de cette saison de l'atelier numérique. C'est la rentrée. Antoine Cyr.
Eh oui, alors je vous propose un crash test qui a à voir avec, je pense qu'on peut le dire sur cette antenne, même si c'est un peu un gros mot, qui a à voir avec la nourriture, avec ce que certains appellent la bouffe.
Vous dites ça à vous?
Oui, parfois, ça m'arrive.
Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle allait bien cette bouffe.
Toutefois,
comme ça. Hein,
voilà, on se fait une bonne bouffe.
Oui, c'est vrai.
Alors là, voilà, il y a des gens qui, lorsqu'il s'agit de manger, lorsqu'il s'agit de bouffer, sont flexitariens. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un flexitarien? Eh bien, si je dois résumer...
Enfin, on rencontre pas des flexitariens à tout bout de champ dans
alors,
la rue.
Alors, justement...
Il y en a plus que l'on pouvait le croire.
Il y en a plus que vous pouvez le croire. Et l'une des caractéristiques du flexitarien, c'est qu'il peut s'insinuer dans votre repas sans que vous sachiez qu'il est flexitarien.
C'est
pourquoi?
Pas vrai.
Parce que qu'est-ce que c'est qu'un flexitarien? Eh bien, un flexitarien, c'est un vegan. Vous savez ce que c'est qu'un vegan?
Oui, il mange que du veg.
Voilà, donc le vegan, il mange que du végétal.
C'est un
végétarien, en somme.
C'est pas un végétalien.
C'est pas un végétalien, mais c'est, voilà. Bon, enfin, le vegan, il ne mange pas de viande, quoi. Et donc, le flexitarien, c'est un vegan qui accepte de faire des entorses à son régime vegan.
Donc il est un peu flexible.
Voilà, il est flexible. C'est pas un végétarien,
non.
C'est un flexitarien.
Ah
parce
oui.
qu'il est flexible. Alors, figurez-vous que ce mot est apparu en 2013, donc ça date un peu, mais vous allez voir, je fais pas du réchauffé, on parle de nourriture.
Cela dit, c'est pas si vieux que ça, 2013.
Oui, mais vous allez voir, il y a une actualité. Mmh. Donc ce mot est apparu en 2013, il a même été classé mot de l'année, par des instances spécialisées dans l'évaluation des néologismes. Et donc, dès 2013, il y avait un site qui s'appelle le site Marmite et Chocolat. C'est un site...
Les deux peuvent se marier.
C'est un site culinaire, hein, qui donnait quelque chose sur les flexitariens, et donc qui nous rappelait qu'on pouvait faire du flexitarisme sans le savoir. C'était la nouvelle tendance alimentaire de l'année, déjà largement répandue outre-Atlantique. Donc le portrait robot du flexitarien, c'est qu'il a toujours des légumes frais et des yogourts dans son réfrigérateur. Au restaurant, le flexitarien préfère commander une salade crudité poulet plutôt qu'une côte de bœuf. Donc vous voyez, il fait des entorses, mais c'est des entorses quand même légères.
Oui.
Voilà, mais enfin, à mon avis, le poulet, quand on le... Il a aussi mal que le bœuf, il est plus petit. Donc c'est assez marrant parce que ça consiste à penser que
l'animal est gros, plus il souffre,
voilà.
En fait. C'est
et
ça.
Donc l'atteinte au règne animal est plus modeste quand l'animal est plus petit. Bon, ça se déforme.
Oui,
ça demande quand même...
Il faudrait poser la question en poulet, en fait.
Ça demande quand même une certaine... capacité dialectique. Et donc, le flexitarien est souvent un adepte de l'agriculture durable et du commerce équitable. Il n'aime pas le fast-food et favorise les pique-niques champêtres. Il aime le bio, mais n'en fait pas une religion et peut se laisser parfois, rarement, tenter, figurez-vous, par un bon steak.
Oh,
voilà.
Ou un bon saucisson.
Alors, l'avantage quand même aussi, c'est que le flexitarien ne culpabilise pas son entourage en racontant comment on peut sauver la planète en tuant moins de vaches, puisque de temps en temps, il s'en fait quand même une petite, et donc il ne se sent pas obligé de faire quelque chose d'aussi voilà sur ce thème. Donc finalement,
en fait, c'est un végétarien sympa, quoi.
Alors c'est exactement ce que nous dit le site, qui hésite quand même, qui dit j'hésite entre le sympathique Monsieur Jourdain et le bon qui fait donc du véganisme sans le savoir, ou du flexitarisme sans le savoir, et puis le moins sympathique Tartuffe, qui se drape dans une grande vertu et qui en fait voilà s'offre des entorses. Alors figurez-vous que la grande icône du flexitarisme, c'est ni plus ni moins Beyoncé. Parce que Beyoncé,
elle est flexitarienne.
Elle est en fait végane officiellement.
Ah.
Et donc elle a fait en juin de cette année, en juin 2015, une espèce de coming out qui est de dire voilà, il m'arrive d'être flexitarienne.
Voilà. Mais non, alors elle est ah oui, elle est flexitarienne.
Mais elle est connue comme étant végane.
Ouais.
Et donc elle a annoncé.
Oui.
Qu'elle était flexitarienne. C'est-à-dire, elle a annoncé qu'il lui arrivait de temps en temps
de manger un
steak. Voilà.
Oh. Mais alors Beyoncé, on peut pas imaginer Beyoncé mais manger un steak pourtant.
Voilà. Et alors figurez-vous quand même que c'est très intéressant parce que dans le même temps, donc Beyoncé, elle est surnommée Queen Bee. Vous savez qu'en 2014, elle est la personne au monde qui a gagné le plus d'argent en vendant de la musique.
Bien sûr.
Elle est auteure, compositeur, danseuse. Elle a gagné 115 millions de dollars l'année dernière et son dernier album a été lancé quasiment sans pub. Et les informations qu'elle donne sur son régime alimentaire sont
capital.
Un élément absolument considérable de son personal branding.
Évidemment.
Et donc, c'est tout à fait intéressant parce que...
Dès qu'elle dit
donc,
qu'elle mange un steak, il y a beaucoup plus de steaks qui se vendent.
D'un seul coup, elle a annoncé donc qu'elle mangeait du steak, ce qui est vraiment un truc...
Ah ouais, mais je crois que ça avait fait un breaking news sur BFM TV. Il y avait eu, vous savez, en bas de l'écran...
Je pense que...
Alerte info,
voilà,
Beyoncé à manger un steak.
Voilà, et donc comme certains étaient en vacances et qu'ils ont raté cette information, il est important de la leur donner. Ah ouais. Alors, puisque j'ai commencé, c'était en fait pour caler les attentes des auditeurs.
J'avais juste une petite question, vous n'avez peut-être pas la réponse. On ne connaît pas la cadence, en fait, des entorses qu'on fait à son régime végétarien quand on est flexitarien.
Alors,
parce que finalement, on peut l'être tous.
Il faut les faire de façon relativement modérée.
Ah oui, d'accord. Voilà. C'est beaucoup plus précis.
Si vous voulez, si vous commencez à dire je mange
un steak tous les jours. Est-ce que je suis flexitarien?
Non, je pense que là, vous n'êtes plus flexitarien.
D'accord, voilà. Ok. Mais à partir d'une fois par semaine, oui.
Oui,
d'accord.
Je pense qu'une fois par semaine, c'est un flexitarisme un peu décadent quand même, une fois par semaine.
C'est ça, un peu décadent.
Un peu décadent, voilà. Alors, les inrecuptibles n'y sont pas allés de main morte. Je vous disais tout à l'heure, j'ai osé employer le mot bouffe. Alors je vais employer un autre mot qui n'est pas très élégant, bien que le gros mot soit composé et caché à l'intérieur d'un néologisme, puisque le titre de l'article récent des inrecuptibles sur ce thème-là, c'était flexitarien et si on arrêtait les flexiconneries. Et donc là, il nous annonçait quand même que vous savez, l'année dernière, il y a un film de science-fiction qui s'appelle Divergente, qui a eu un succès extraordinaire, une histoire post-apocalyptique, qui a révélé une actrice qui est Shailene Woodley. Mm-hmm. Et donc Shailene Woodley, elle est quand même flexitarienne. Elle revendique qu'elle n'est pas passée comme Beyoncé par la case végane, elle est passée directement à la case flexitarien. Voilà.
Bon. Très bien. Ben écoutez, vous êtes flexitarien, vous, Antoine, ou pas ?
Moi, je suis flexitarien, oui.
Cet atelier numérique est terminé avec ce crash test. Merci d'avoir été là. On est ravis de vous retrouver pour cette rentrée. On sera là, bien évidemment, samedi prochain, 16h-18h. D'ici là, très bonne semaine à vous toutes et à vous tous et bonne rentrée. Salut à tous.